Bien, bonsoir. Alors, on m'a dit de faire assez vite puisqu'on a pris du retard. Alors, j'ai trouvé une idée pour être assez rapide. Voici. Liliane Giraudon, publiant en 2012 « Les pénétrables », ensemble de brèves biographies des auteurs passés qui la nourrissent. Liliane Giraudon, répétant le nom de l'auteur dans chacune de ses vidas, écrivant dans son premier livre « Répétition du même » et « C'est une autre ». Liliane Giraudon, dans la décennie 80, renéotypant la revue Banana Split, la Rank Xerox, couvrant la voix de Jean-Jacques Vuitton. Liliane Giraudon, persévérant avec la revue If et Vuitton, et puis de Paul et de lui. Liliane Giraudon, disant qu'un poème n'est jamais seul, vivant sa voix parmi les autres voix. Liliane Giraudon, ensemble donc, dans un ensemble avec unité problématique. Son cou, elle y pose parfois l'intérieur de sa main. Écoute le cœur. Les battements lui servent pour mesurer la cuisson des œufs à la coque. Liliane Giraudon à la large tessiture, riant dans le grave et gravant dans le léger. Liliane Giraudon montant ses livres comme un film, disant les textes comme des paroles, parlant de tout à un chacun. Devenir, oui, devenir, les transistors d'un immense circuit. Liliane Giraudon, née en 1946, pas de jour précis, pas de lieu. Liliane Giraudon, en train d'écrire plus de 30 livres. Liliane Giraudon, vivant et vivante.
Merci. C'est formidable, les gens qui vous présentent comme ça, c'est impressionnant. Bon, je suis ravie d'être là. Je suis arrivée de Marseille hier soir après 6 heures de train. Et à Marseille, il faisait 17 degrés. Mais je suis ravie d'être avec vous. Je vais donc lire la dernière partie d'un livre qui s'appelle « L'amour est plus froid que le lac ». Je vais vous lire rapidement la quatrième de couverture de façon à mieux peut-être introduire la dernière partie. Sous le double regard de Viviane Meyer et de Laurine Heidecker, le poème est posé sur la table comme une caméra, il tourne. Viviane Meyer est une photographe américaine. Et Laurine Heidecker est un très grand poète américain. Ce sont deux femmes assez occultées qui, pour moi, ont pourtant travaillé sur une œuvre considérable. Des personnages entrent, des récits s'entremêlent, où fiction et documents tentent de rendre compte d'une plateforme hybride d'expérience. Ordinaire manière d'organiser le pessimisme en ce début de XXIe siècle. L'annonce brutale de la mort de Chantal Akerman viendra tout autrement éclairer le décor mis en place et fera ressurgir le titre occulté, celui du premier long métrage de Fassbinder, « L'amour est plus froid que la mort ». La forme d'un film repose sur les scènes qui n'ont pas été tournées et qui doublent les autres. Par un simple déplacement, le sujet du lac devient celui de l'amour mort, ou plus exactement mis à mort. Semblable au train, un titre peut en cacher un autre, et avec lui un réservoir de souvenirs, leur amnésie. Comment a-t-on survécu à un premier amour serait alors la question. En 9 photogrammes revisités dans le sublime film de Fassbinder, héros du livre rejoignant les dames du lac, une tentative de réponse est apportée. Sur nous tous, le poème en sait plus long que nous, et c'est bien parce qu'il brûle sur un monde dévasté que l'amour est plus froid que le lac. Il y a une, en préface, il y a une citation de Keith Waldrop que j'aime beaucoup. Derrière le poème, il n'y a pas d'état psychologique, parce qu'une fois le poème écrit, le poète est mort. La troisième partie s'intitule « Une mauvaise foi pour toutes ». Ça commence au printemps, au cours d'un rêve, en début de nuit, je joins les mains et je m'accroupis dans le feuillage. Il y a une photographie, je suis émue, un peu inquiète, parce que quelqu'un parle de ses excréments dans un sac de papier, là où je ne vois que des morceaux de sucre. Il dit que je suis dure d'oreille, alors un titre m'est donné, « L'amour est plus froid que le lac ». C'est le titre d'un livre. Un livre que dans mon rêve je suis en train d'écrire. Il est placé en vue, ouvert sur une table, entre manuscrit et édition, puisque c'est un livre déjà imprimé, mais que je corrige inlassablement. Les pages sont couvertes de notes manuscrites. L'objet est beau parce que parfaitement incongru, comme si ce qui y est imprimé était le texte d'une autre. Seules les traces manuscrites sont par moi reconnaissables. Des hachures de couleurs surlignent certains paragraphes, rendant difficile l'accès au sens. Ce qui m'était venu à l'esprit avait auparavant été marqué sur un petit papier. C'était là que se trouvait l'explication, mais la présence du sucre cachant la merde avait tout effacé. Plus bas, je cueille des fleurs dont j'ignore le nom, d'un jaune inexistant. Dans les jours qui suivent, le rêve s'installe et me harcèle. Tu vas écrire ce livre, c'est ton prochain livre, celui au bord duquel tu te trouves. Toi, tu penses, c'est sans doute lui, mais pas avec un titre pareil. Ce lyrico-mélodramatique, non décidément, ce titre est impossible. Il se trouve que je travaille à une commande faite par Hubert Collat, réécrire l'acte 3 de La Mouette de Tchekhov. Celui qui, en mourant, a dit « je meurs ». Dans un premier temps et hâtivement, je pense que c'est de là que vient le transfert onirique. Le lac est un personnage central. C'est sur lui que se déverse le faisceau de ténèbres qui provient du temps de ceux qui le pratiquent. Le lac, c'est le théâtre contemporain, qui incessamment reste à écrire, c'est-à-dire défaire. Celui que, dans La Mouette, Treplev tentera d'affronter et qui le tuera. Car Treplev est confronté à la fracture de l'intempestif. Ce n'est pas par amour pour Nina que Treplev se flingue. Non, Treplev, comme son oncle Sorine, est homosexuel, c'est évident. Et lui, ce n'est pas le non-amour de Nina, c'est le théâtre qui le tue. Tous les révolutionnaires, Lénine, Trotsky, Makhno, sont des metteurs en scène. Ça, c'est Meyerhold qui le dit. Du temps passe, renoncule dispersé parmi les têtes mortes des hortensias, engorgement de nuages sur un ciel initialement clair. Je commence un livre sans titre. C'est la première fois de ma vie que je commence un livre sans titre. Comme nos rêves sont circulaires, il revient, dans un autre décor et avec l'entrée en scène de quelques personnages. Comme le poème, le rêve désactive les fonctions informatives. Il décharge et il soulage. Quelque chose scintille et ça pue. Cette fois, c'est une voix qui dit le titre et j'ai perdu le livre. Je le cherche partout, car tous les contresens y étaient assez beaux. Je suis dans un train, il y a une voix dans une autre voix. Une fille mange une pomme, brusque saute de syntaxe. Un garçon demande à la fille qui lui montre ses seins, « À quoi pensez-vous au sexe ?» Elle répond, « À la révolution. » Plus tard, je me souviendrai que ce n'est pas la fille qui mange la pomme, mais le garçon. Elle lui demande si la pomme était bonne, et il répond qu'à 12 ans, il a tué son père. On voit le paysage défiler. Le film est en noir et blanc, mais à un moment, il y est question d'une robe jaune. Une pute dit « Johanna, je l'ai vue plutôt dans une robe jaune. » Rêve réservoir, mais aussi piège, puisque être dans le lac aggrave encore le piège, l'expression signifiant la pendaison, le S du lac renvoyant au dessin de la corde, se lasser. Tchekhov, c'est Pouchkine en prose. C'est Tolstoï qui le dit. Pourquoi Treplev est-il homosexuel ? Parce que si l'antisémitisme est très présent dans la littérature russe, peu de références à l'homosexualité. Sous Nicolas Ier, la trique. Erreur, me signale Yvan Mignot, traducteur de Harms et de Klebnikov. Il y a des vers de Pouchkine sur un ami de lui qui vit en Bessarabie. Il dit qu'il l'aime bien, qu'il est prêt à lui rendre tout service, excepté lui prêter son cul. Il y a aussi, bien sûr, Lermontov. Lermontov ? Vous avez bien dit Lermontov ? Celui qui dessinait des cavaliers sur ses manuscrits ? Qui est mort en duel ? Même si c'est vrai, c'est faux. Le lac n'est qu'un trou d'eau. On m'a raconté qu'à mon seul prénom, il avait blêmi tout d'un coup. Sans doute une détresse respiratoire. Jouez trop vite du Maeterlinck et vous aurez du vaudeville. J'en suis à me demander comment il avait pu vivre sans cette inspiration compositrice, ce désir d'écrire, morbide variante d'un fantasme de tueur. Je lui avais toujours trouvé une belle tête de tueur. Les filles sont parfois très folles. Écran piège du lac tchécovien, j'aurais dû garder à l'esprit qu'à Marseille, la ville où souvent je dors et par conséquent rêve, les mouettes chient du rat. Ce détail aurait dû m'alerter. J'avais cherché sans trouver, par finir par trouver alors que j'avais renoncé à chercher. Treplev précédait Mandelstam, lequel précédait Fassbinder. Mon siècle, mon fauve, qui pourra te regarder droit dans les yeux et souder de mon sang les vertèbres de deux siècles. Et en ce qui me concerne, j'ai mis longtemps à comprendre que la forme d'un film repose aussi sur les scènes qui n'ont pas été filmées et qui doublent celles qui l'ont été. Ce poids fantôme. Des semaines pour finir par découvrir que la fille du train qui montre ses seins sort du premier long métrage de Fassbinder dont le titre était « L'amour est plus froid que la mort ». Vu en 1970 dans une version non sous-titrée, l'allemand totalement opaque pour moi, un ami étonné par mon éblouissement m'en avait plus tard résumé l'action. Franz, alias Fassbinder, macro de Munich, aime sa pute Johanna, alias Anna Chigula. Il la partage avec un jeune garçon, Bruno. Braquage, meurtre. Franz, préférant travailler en solo, a refusé d'être engagé par le syndicat mafieux. Ils forment un trio hallucinant. Pour finir, Johanna balancera Bruno aux flics qui le tueront dans leur cavale et Franz ignoreront que Bruno était un traître payé par le syndicat. On ne peut jamais savoir ce que veulent les autres. L'amour exige toujours des sacrifices et Franz prépare le personnage brechtien de Bâle chez Volker Schendorf. Au générique, le nom de Straub s'enhuyait. Avec la dictée nocturne du titre trafiqué, j'étais entrée dans une nouvelle étape de l'écrire, comme si je n'étais plus moi-même le sujet de l'action. Écrire devenait une action autre, charriée par une autre, sorte de corps fantôme branché éclairé par un projecteur latéral. Pas auteur, pas poète, plutôt acolyte, c'est-à-dire celui, celle qui accompagne en vue de suivre, d'assister. Suppléante. Je deviens complice d'une action suspecte. Coupable. Elle accompagne sans accompagner, comme la pute qui trahit. Elle assiste à l'entrée d'un lac, de ses personnages par ordre d'apparition, de Macbeth à Fassbinder, au décor comme aux actions qui s'y déroulent. Elle prend soin de laisser seul chaque mot qui les désigne. Auxiliaire, partenaire ou double, elle retrouve le poème comme le film, après une longue absence. Entre fiction et réalité, littérature et documents, les noms propres ont presque tous existé, Leur beauté, comme leur force lexicale, tient au fait qu'ils ne sont pas des mots, mais des fantômes de mots. Le poème a pu mettre sa machinerie en action grâce à une amnésie essentielle. Tout ce que nous touchons vient du passé et constitue un accès à la mort. Alors seulement les choses s'éclairent, loin de toute restauration, à moitié sauvées, à moitié saumâtres. Sous les jambes du poème, il est beaucoup question de la survie de l'amour mort. Comment survivre à l'amour mort ? Écrire, le plus sûr moyen d'y échapper, mais aussi, et dans un mouvement aussi violent, d'y être rattaché. Par exemple, rameuter, faire surgir les anciennes images, tessiture des voix, grains de la peau, consistance des étoffes. Revoir, comprendre, un étrange chagrin, une véritable peine. Comment a-t-on survécu à un amour mort ? C'est la question qui se pose. Par un autre amour, répond blasé le cœur. Un angle obtus. Faudrait-il ici une indication entre parenthèses qui expliquerait toute une page ? Ainsi, dans un tourbillon, quelque chose apparaît. Le poème place sa caméra et il filme. Pas restauration ni restitution. Une peut-être forme de prolongation. Tenter de ramener à la lumière les images ensevelies. Corps d'un homme de 30 ans, j'en ai 15, non revu, perdu, évaporé dans le temps, qui en aurait plus de 80, et qui, je l'apprendrai accidentellement, est mort depuis 25 ans. Je revois la bouche et les ongles, les paupières, une odeur de tabac blond, une cicatrice, trace d'une brûlure sur le thorax, une autre, trace d'un couteau sur la première phalange de l'index. Il aime et engrosse l'héroïne dans une carrière, celle-là même qui, je l'apprendrai bien plus tard, devait impressionner un poète nommé Duboucher, en plein milieu du jour. C'est à ce soleil sur craie blanche que je pensais, au moment de la pose des tiges laminaires, puis dans la découverte du sang noir à l'intérieur des cuisses. J'imaginais, au creux de ma main, les minuscules os du fœtus, songeais avec effroi au jeu des osselets. L'avortement était un crime, là encore enfant, se débarrassant de son propre enfant, ruisselé doublement dans du crime. Comment, l'hiver, nous restions immobiles enlacés au pied d'un arbre, dans le petit bois de pin où je le retrouvais. Cette force qui nous précipitait dans l'étreinte et ce silence quand les bouches se cherchaient. Une respiration presque douloureuse du langage et l'impossibilité de parler. Une expérience singulière, hors de toute signification, où les limites même du sexe ou des sentiments se trouvaient hors champ. Je me souviens sur nos têtes du bruit du vent dans les arbres. Une forme informe du mouvement du vent jusque sur nos corps. Lui vêtu et moi nu, enveloppé dans son manteau, avec pour finir son sexe enfoncé en moi. L'obsolescence d'un tel souvenir, puisque celui qui pourrait le partager avec moi est mort, que le scandale le chassa des lieux où l'action se produisit, que jamais le secret ne fut trahi, qu'ayant appris, à ma majorité, 5 ans plus tard, qu'il avait fait un autre enfant, réel celui-là, je finis par renoncer au projet de traverser l'océan pour, aux Amériques, le tuer. Un modèle de lenté pulvérisé par le poste, l'héroïne désormais habitant un corps semi-mort et ne survivant un temps que dans un usage effréné du sexe et des livres. Se pose ici donc le fait que c'est sur cette indéchirable expérience qu'allaient se construire toutes les aventures amoureuses qu'elle allait traverser, comme dans les romans, ce qu'elle allait en lire. La nuit, parfois je m'éveille, croyant reconnaître le bruit du vent dans les arbres. Mais non, ce sont des voitures sur le boulevard. L'essayer dire longtemps, et jusqu'à cet actuel soir de décembre impraticable, une forme d'exploration micrologique apparaît pour la première fois envisageable. Dit de mon jadis. Je peux le dire, c'est sur ce drame que se sont construites mes forces. Les pages de ce qui précède, film sous un autre film, récitative barré par un lac, d'autres personnages. Car, pour ce qui serait des mots concernant cet amour, ils occupent un trou que j'aurai sur le bout de la langue et qui y restera jusqu'à ma mort. L'eau du lac a envahi le trou. Le lac habite le livre, celui que je lis en l'écrivant, car les mots se sont détournés de la phrase. Ce sont les silences entre les mots qui sont devenus les lieux d'un autre casting, un autre film. Dehors, on a commencé à détruire la langue. Procédure d'éloignement a remplacé mesure d'expulsion. Réussite différée, échec scolaire. Plan de sauvegarde de l'emploi, licenciement collectif. La mort rôde, comme la honte de survivre sur un mode privilégié dans un monde qui s'étrangle. L'instrument que j'utilise demeure mal tempéré, car il procède par fragmentation. Un stoppage incessant rythme le poème et introduit polaroïdement des successions de pauses, tant cliquetis, avec motifs illustrant la préparation autant que la répétition de meurtres, passé et à venir, privé ou de masse. La ligne de démarcation entre prose et poésie se déplace incessamment. Quelque chose de profond et d'acharné dans l'usage d'une technique froide. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est la combinatoire. Thoreau avait raison, l'expérience est dans les doigts et dans la tête. Le cœur, lui, n'a pas d'expérience. Sur nous tous, le poème en sait bien plus long que nous, et c'est bien parce qu'il brûle sur un monde dévasté que l'amour est plus froid que le lac. Merci.